Eh ben, on est prêt quand vous voulez.
Les micros sont bons. Eh ben, c'est parti alors.
Ok. Vous nous dites. On y va. Bonjour, bienvenue à cette émission des Voix de l'Alma. Notre grand maître Rémi n'est pas là aujourd'hui, donc il m'a demandé de le remplacer. Bonjour Philippe Bernadou.
Bonjour Jacques.
Bonjour Hugues Dodi.
Bonjour Jacques.
Eh bien, on va commencer tout de suite avec l'auteur du mois. Et cette fois-ci, Hugues, c'est vous qui allez nous parler de...
De Thomas Cotto.
Qui est un auteur montalbanais, je crois.
Absolument, on le rencontre sur les étagères, généralement au rayon jeunesse. Et à Montauban, on le rencontre aussi dans les librairies ou dans la rue, car depuis quelques années, effectivement, il s'est installé dans notre ville. Il est né pourtant aux antipodes du Sud-Ouest, dans le Nord-Est, en 1974, où il grandit en écoutant les fabulettes d'Anne Sylvestre, autant de chansons qui donnent le goût de l'amitié, de l'engagement, des mots et des histoires. Il poursuit et développe le goût des mots dans de longues études littéraires, mais c'est à la naissance de son premier enfant qu'il se consacre pleinement à l'écriture. En devenant papa au foyer, il fait aboutir ses projets et contacte les éditeurs. Depuis 1998, il écrit plus d'une cinquantaine d'albums, romans ou recueils parus chez divers éditeurs. Il envisage également l'écriture avec les enfants comme une expression aussi fondamentale que la parole. Il développe sa propre pédagogie de l'écrit dans de nombreux ateliers d'écriture pour les élèves de maternelle, primaire ou collège. « Il ne faut jamais taire ce qui nous étonne, dit-il, nous met en colère, nous fait peur ou nous passionne. » Thomas Cotto extrait de sa propre expérience d'écrivain des concepts d'écriture qu'il concrétise auprès d'enfants pour favoriser l'expression. Il semble très attaché à cette pédagogie de l'écrit qu'il considère telle une extension logique de son métier d'écrivain. Du poème au roman, en passant par la nouvelle, l'auteur varie aisément les formats comme les genres, de la comédie au polar. Mais il semble attaché à la figure du faible pour développer ses récits. L'individu dont la psychologie ou l'apparence sort de l'ordinaire se retrouve dans une posture faible ou potentiellement faible quand il est confronté à la norme. Cette figure semble un postulat récurrent dans son inspiration. Donc pour découvrir Thomas Cotto, je vous propose trois livres. Jérôme Parker aux éditions Actes Sud, un très bel album qui raconte l'histoire d'amour, enfin qui raconte l'amour que Raphaël éprouve pour son copain Jérôme. Autre titre, Un poussin mouillé au bord de la route, aux éditions Thierry Magnier. Dans ce roman, Matisse raconte comment sa grande sœur est passée d'une allure normale à goth. Et enfin, Mi-ange, mi-démon, aux éditions Thierry Magnier, un recueil de nouvelles qui montre que le bon comme le mauvais doit être pleinement vécu. Enfin, vous retrouverez sur le site librairiemontauban.fr une biographie complète et je mettrai également l'adresse de l'interview de novembre 2012 en podcast sur CFM.
Très bien, merci. Je signale d'ailleurs que Thomas Cotto, qui comme vous l'avez dit a écrit des nouvelles, sera cette année invité à Place aux Nouvelles, le festival consacré à la nouvelle qui aura lieu à Lauzerte le 8 septembre prochain. Donc venez le rencontrer directement à Lauzerte. On essaie d'élargir un peu le public donc à des auteurs qui ont écrit des nouvelles jeunesse.
Avec Mi-ange, mi-démon, il sera là.
Voilà. C'est avec ses autres livres aussi, mais certainement avec celui-là. Coup de cœur, Philippe, votre premier coup de cœur.
Alors, il s'agit de Bérénice 3444 d'Isabelle Stieb aux éditions Serge Safran. J'ai déjà eu l'occasion de souligner ici la qualité de ces éditions dans leur choix éditorial. C'est une littérature romanesque de belle facture. Bérénice 3444 est à conseiller sans hésiter à tous les amoureux du théâtre. Ils sont nombreux. D'une part parce que, comme le dit le bandeau, ce livre fait un portrait de la comédie française sous l'occupation. Et la reconstitution historique est parfaite, extraordinairement documentée. Peut-être même pourrait-on lui faire le reproche d'être parfois trop pointilleuse au détriment de l'intrigue. Et puis ce roman dit de bout en bout la passion absolue, exclusive, dévorante d'une jeune fille pour le théâtre. Bérénice, elle a bien nommé, fille d'un émigré juif de l'Est, va devoir renier sa famille et son nom pour arriver là où elle veut aller, sur la scène de la comédie française et en vedette. Mais comment peut finir l'histoire alors que règne la délation et la volonté d'anéantir tout un peuple? L'auteur nous en prévient d'entrée, cette histoire-là, Bérénice ne la racontera jamais à ses petits-enfants. C'est aussi le rôle du roman que de rendre une mémoire à ceux qui en ont été privés. Bérénice 34-44 d'Isabelle Stieb, publié chez Serge Safran.
Bien, alors on va changer tout à fait de genre, puisque je vais vous parler d'un livre dont le titre m'a bien évidemment accroché, qui s'appelle « Orgasme à Moscou ». C'est un livre d'un certain Edgar Ilsenrath, et c'est publié aux éditions Attila. Alors, au-delà du titre, ce qui accroche aussi, c'est la couverture, parce qu'elle est très imagée, elle est très colorée, elle est composée d'une quinzaine de petits quadrilatères qui renferment des dessins dans lesquels il y a une faucille, il y a un marteau, il y a un camion militaire, il y a un général soviétique, il y a des personnages curieux, il y a un poivron, etc. Ouvrant le livre, on constate qu'il est imprimé à l'encre bleue, ce qui est tout de même tout à fait original, et qu'il contient de nombreux dessins dans le style de ceux de la couverture. Alors tout ceci, bien sûr, est, je trouve très alléchant, on a envie d'aller voir un peu plus loin. La quatrième de couverture rappelle que Edgar Ilsenrath est l'auteur de Fuck America et de Le Nazi et le Barbier. Si vous avez lu un de ces deux livres, je suis sûr que vous allez vous précipiter sur Orgasme à Moscou. Ilsenrath, il est né en 1926 en Allemagne. Il a connu les ghettos durant la guerre avant de partir en Israël puis à New York. La quatrième de couverture indique que c'est le cinéaste Otto Preminger qui lui a commandé un synopsis et Ilsenrath l'a écrit en 6 jours, cet Orgasme à Moscou. Une parodie totalement déjantée d'OSS 117. Il a été publié pour la première fois en 79 sous le titre « Attention, camarade Mandelbaum ». Il est réédité en 2013 par donc ses éditions Attila qui ont particulièrement soigné la présente édition. On est en pleine guerre froide, en 70. Nino Pepperoni, qui est le patron de la mafia américaine d'origine sicilienne, prend sa retraite le jour de ses 65 ans. La justice américaine n'a jamais rien pu prouver contre lui. Et pourtant, les cadavres de ses ennemis sont nombreux à remonter régulièrement à la surface de l'East River ou à traîner dans le limon avec une pierre autour du cou au fond du fleuve. Il est en paix avec lui-même, avec le monde, mais il n'a qu'un seul problème, c'est que sa fille Anna Maria, qui a 30 ans, bien sonnée, n'est toujours pas mariée. Anna Maria, qui se prétend journaliste, va partir à Moscou, interviewer le camarade Brejnev, chef du parti, et le camarade Kosygin, président du Conseil des ministres. De façon surprenante, elle s'éternise à Moscou, car elle ne rentre ensuite aux États-Unis que 5 mois après, enceinte. Elle avouera à son père que c'est ni Brejnev, ni Kosygin qui l'ont mis enceinte, mais un certain Sergueï Mandelbaum, un juif, bon, ça plaît pas beaucoup à son père, qui est sicilien, russe, et fils de rabbin. Elle ajoute que si n'importe quel imbécile est capable d'engrosser une femme, lui, eh bien, il a fait quelque chose de spécial. Il lui a procuré le premier orgasme de sa vie et qu'elle est très très accrochée à cet homme. Alors, en authentique mafieux sicilien, Nino Pepperoni ne voit que 2 alternatives. Buter le séducteur de sa fille ou la lui faire épouser. Il choisit la seconde solution. Mais pour l'épouser, il faut sortir Sergueï du RSS. Or, Sergueï est un scientifique qui a travaillé dans l'industrie de l'armement. Les autorités vont certainement pas le laisser sortir. Donc, il faut trouver quelqu'un pour essayer de l'exfiltrer. Et là, on a recours au célèbre Sepp Karl Lopp, citoyen autrichien, qui est le passeur le plus célèbre de la planète et qui, pour 200 000 dollars, va accepter d'exfiltrer Sergueï Mandelbaum. Mais là, il y a un nouveau problème, parce qu'il s'avère que S.K. Lopp, donc c'est comme ça s'appelle, ses initiales, est un, tenez-vous bien, c'est totalement foudrant, est un dépeceur sexuel. C'est-à-dire que, on a retrouvé dans son frigo une foule d'objets bizarres, dont des sexes d'hommes congelés. Alors, il n'est pas question que Pepperoni confie son futur gendre à un dépeceur sexuel. Alors après avoir consulté les somnités, il se dit, ça peut se guérir, mais ça va prendre beaucoup de temps. Or, Anna Maria est déjà enceinte de 5 mois, donc il faut pas très bien faire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va trouver un seul traitement très rapide possible. On va castrer Escalope. Et là, je vous ai raconté que le prologue de 17 pages de ce livre qui en comporte 316. Suffisamment, j'espère, pour que vous ayez ou envie de lire ce livre, ou vous dire que ce livre est absolument pas du tout pour vous. Et ce que je comprendrais très bien d'ailleurs, parce que vous l'avez compris, c'est un livre totalement burlesque, déjanté, foutrin, qu'il met en scène, pour moi, mon plus grand plaisir, des mafieux, mais aussi Nixon, Moshe Dayan, sans oublier le président du Conseil italien, un obsédé sexuel, déjà dans les années 70. C'est un livre de pur divertissement, totalement loufoque, et moi j'ai trouvé que ça m'a fait du bien. Et ça s'appelle Orgasme à Moscou, pardon, voilà, de Edgar Ilsenrath. Hugues.
Alors on poursuit avec un livre beaucoup plus grave, un livre jeunesse qui s'appelle Sweet Sixteen. En 1954, la Cour suprême des États-Unis prend une décision d'une importance capitale qui met fin à la ségrégation dans les écoles publiques en la rendant inconstitutionnelle. Mais encore faut-il pouvoir passer de la loi à l'application, surtout dans les vieux États du Sud où ségrégation et racisme sont encore de rigueur. Et ce n'est qu'en 1957 que le lycée de Little Rock en Arkansas accepte d'accueillir en son sein 9 élèves noirs, 9 adolescents pleins d'espoir, au milieu de 2500 blancs hostiles et mal intentionnés. Ils y passeront une année d'enfer, mais leur exemple a montré la réalité du terrain et a ouvert la voie aux nouvelles générations. C'est cet incroyable événement qu'Anne-Lise Heurtier a voulu retracer. Sweet Sixteen est une pure fiction, mais elle se base entièrement sur des faits réels et sur des témoignages. D'ailleurs, l'héroïne Molly est entièrement inspirée de l'une de ses 9 élèves, Melba Patillo. Donc, ça se passe en 1957. Molly et 8 autres étudiants brillants, choisis sur la base du volontariat, sont sur le point d'intégrer le prestigieux lycée public de Little Rock. Mais cette décision soulève des tollés de haine et d'incompréhension, tant dans la communauté noire que blanche. Molly ne s'attendait absolument pas à vivre une telle expérience, à être autant méprisée, brimée, insultée. En parallèle, et en alternance de chapitres, on suit le quotidien de Grace, une jeune lycéenne blonde et populaire. Donc, tandis que Molly est en train d'écrire l'histoire, Grace nous présente, elle, ses petites histoires, ses préoccupations de jeune fille de 15 ans, fortement attirée par le grand frère d'une de ses amies et bien décidée à être couronnée reine du bal du lycée. Donc, jour après jour, elle observe cette jeune noire subir les pires humiliations en se demandant comment elle fait pour tenir, pour résister à ce flot d'injures. Les deux jeunes filles sont sur le point d'avoir 16 ans, et toutes les deux rêvent d'avoir une Sweet Sixteen de rêve entourée de leurs amis. Je précise que le Sweet Sixteen est une fête importante aux États-Unis qui symbolise le passage vers l'état d'adulte. Donc, une même préoccupation pour les deux jeunes filles qui les rapprochent, alors que, par ailleurs, tout les oppose. Donc, ces deux existences parallèles montrent le quotidien de Molly et celui qu'elle devrait avoir. Un procédé sensible qui expose la cruauté du système ségrégationniste. Donc, Sweet Sixteen est un roman bouleversant qui rappelle que la ségrégation était encore en vigueur il n'y a encore que 60 ans et qu'elle est, avec la traite des Noirs, un des plus grands crimes contre l'humanité. Ça s'appelle donc Sweet Sixteen, c'est écrit par Anne-Lise Heurtier et c'est disponible aux éditions Casterman.
Et c'est pour des ados, vous diriez, à partir de quoi, 14-15 ans ou
bah, plutôt à partir de 16 ans, parce que la oui. dernière scène est vraiment très très dure.
D'accord. Très bien. Philippe.
Nous allons parler pour une fois de policiers. Parce que je ne sais pas vous, mais moi, pour qu'un roman policier m'intéresse, il faut qu'il me promette autre chose qu'un cadavre coupé en morceaux et savoir qui a fait ça. Autrement dit, c'est un genre, le polar, que je fréquente avec circonspection. Mais quand on commence par me parler, comme ici, dans Beso de la Muerte, de l'assassinat de Federico Garcia Lorca dans les hauteurs de Grenade en 1936 par les milices franquistes, bon. Alors là oui, ça titille ma curiosité. C'est pourtant bien de nos jours que l'intrigue se passe. Thomas Roussel est commissaire à Pau. Il y a quelques années, il a laissé l'alcool noyer l'histoire d'amour qu'il vivait avec la jeune et belle Claire. Il s'en est sorti, et c'est même aujourd'hui le jour de son mariage avec la doctoresse qu'il a sauvée. Son portable sonne. Ben oui, gagné, c'est clair. Elle est en danger de mort, et n'a que le temps de crier « El capitaine, el capitaine ». Le lendemain, on retrouve à Marseille son corps méconnaissable passé au lance-flammes. Nous, lecteurs, on connaît déjà El Capitan. C'est une sorte de chevalier noir qui présidait à l'exécution des républicains pendant la guerre civile en Espagne, celle de Lorca, entre autres. Quel rapport, de si longues années après, avec la mort de Claire? C'est ce que va essayer de comprendre Thomas Roussel en enquêtant aux côtés de Aïcha Sadia, qui est la commissaire de Marseille et qui est aussi l'héroïne récurrente des romans de Gilles Vincent. Il semblerait que la jeune femme, Claire, avait appris des choses au sujet d'une réunion secrète tenue dans les années 70 entre les plus hauts responsables des États espagnols et français, les vraiment plus hauts responsables, pour dissoudre le GAL, police parallèle chargée d'éliminer les indépendantistes basques de l'ETA, de l'État sur le sol français. Et dissoudre le GAL, c'est admettre qu'on l'avait créé. De vrai en fausse piste, Beso de la Muerte campe des personnages terriblement attachants, avec leurs forces et leurs failles, leur part d'ombre, comme on dit aujourd'hui, cette ombre bleue qui enveloppait le poète dans les fossés de Grenade le 17 août 1936, quand le coup de grâce a claqué. Beso de la Muerte de Gilles Vincent est publié aux éditions Gigal, une maison de Marseille spécialisée dans le policier.
Un dernier coup de cœur, le cinquième, ce que je vous présente, ça s'appelle « Sept femmes » et c'est de Lydie Salvert. Lydie Salvert, elle a été invitée des Lettres d'automne en 2008 et elle publie donc un livre dans lequel elle fait le portrait de sept femmes. Mais ce sont sept allumées, sept écrivaines pour qui écrire est toute la vie. Sept femmes assez folles pour affirmer leur volonté présomptueuse d'écrire dans un milieu littéraire essentiellement gouverné par des hommes. Lydie Salvert a relu tous leurs livres, s'est plongée dans les biographies, les lettres, les journaux intimes de ces sept femmes. Elle constate que, pour ces femmes, vivre sans écrire revenait à mourir. Mais elle fait aussi un constat plus sombre. Ces femmes qui aimèrent infiniment la vie, qui aimèrent infiniment l'amour, qui furent comblées de presque tous les dons du ciel, ces femmes vécurent toutes, presque, un destin malheureux. Alors, qui sont ces sept femmes? Certaines d'entre elles sont bien connues. Émilie Brontë, Marina Tsvetaeva, la poétesse russe, Virginia Woolf, Colette, Sylvia Plath. Mais il y a aussi deux autres qui, moi, je ne connaissais pas du tout. Djuna Barnes et Ingeborg Bachmann. Alors, Émilie Brontë, vous savez, c'est celle qui elle mourra en 48 à 30 ans, sans savoir que son livre, ensuite, Les Hauts de Hurlevent, sera considéré par Georges Bataille comme le plus grand roman d'amour de tous les temps. Djuna Barnes, elle est née elle, en 92 dans l'État de New York. Elle eut de nombreux amants. Elle vécut les années effervescentes de Montparnasse, des années 20. Elle écrivit Le Bois de la Nuit. Sylvia Plath, c'est une poétesse américaine qui est arrivée en 56 à Cambridge, où elle tombe amoureuse du poète anglais Ted Youth. Elle vit une véritable passion avec lui, qui tournera mal, puisqu'elle se suicidera à 30 ans. Claude Pujade-Renaud a consacré à cette histoire très romantique de passion entre deux auteurs un livre qui s'appelait « Les femmes du braconnier » que je vous avais présenté l'année dernière. Colette, bon, je crois qu'il est inutile de la présenter, c'est bien sûr l'auteur de « La naissance du jour », de « Sido », des « Claudine », du « Blé en arbre », du « Blé en herbe ». Marina Tsvetaeva, c'est l'un des plus grands écrivains russes du XXe siècle, qui de son vivant se heurta à une surdité totale, ses lettres demeurèrent sans réponse, ses manuscrits furent refusés. Elle en éprouva un sentiment d'exclusion très fort qui, joint à des conditions d'existence effroyables, eh bien, furent telles qu'elle finit par se pendre en URSS en 1941, deux ans après être revenue dans son pays d'origine. Virginia Woolf, c'est l'auteur, bien sûr, d'Orlando, des vagues, des années, qui un jour entrera dans la rivière Luce, les poches pleines de pierres, et les eaux se refermeront sur elle. Ingeborg Bachmann, la septième femme qui est racontée donc par Lydie Salvert, elle est née, elle, en 1926 en Autriche. Elle rencontrera Paul Celan, qui deviendra l'un des poètes majeurs du XXe siècle. Son grand drame, c'est qu'elle est la fille d'un homme qui s'est rangé aux côtés d'Hitler et qu'elle aime un poète juif qui a échappé au camp d'extermination où ses deux parents moururent. Elle finira, elle aussi, tragiquement, puisqu'un soir, écrasée de somnifères, elle n'éteignit pas sa cigarette avant de s'endormir. Je vous invite à aller plus loin dans votre connaissance de cette femme en vous plongeant dans ce livre tout à fait passionnant de Lydie Salvert qui s'appelle « Sept femmes » et qui est publié aux éditions Perrin. Vous êtes sur les Voix de l'Alma, l'émission qui vous est proposée par les libraires de Montauban et qui rassemble aujourd'hui Philippe Bernadou de la librairie de Loche, Hugues Dedi qui représente la librairie
Le Bateau-Livre,
la librairie jeunesse Le Bateau-Livre, et moi-même qui remplace les deux femmes renardes qui n'ont pas pu venir aujourd'hui. Maintenant, nous arrivons à la lecture. Philippe Bernadou, c'est vous, je crois, qui vous y collez.
Oui, nous avons déjà parlé souvent de Dominique Fabre. Il a même été un auteur du mois il y a quelques mois. Et je voulais, à l'occasion de la parution de son nouveau livre « Des nuages et des tours », qui est une reprise de chronique parue dans le Matricule des Anges, au sujet du quartier où il habitait en banlieue parisienne, je voulais donner une idée de son écriture. La semaine dernière, j'ai attendu le PC2 avec un survivant de l'époque des chemises bariolées. La sienne était mauve avec des fleurettes blanches. Il souriait comme s'il avait des tonnes de raisons pour ça. Il m'a demandé l'heure. Cela faisait longtemps qu'il n'était pas venu à Paris. Il avait passé son enfance en banlieue et il avait bourlingué, il m'a dit en souriant. La vie passait trop vite. Il était resté parfois plus longtemps qu'il ne voulait dans des pays connus pour... En tout cas, dans le bus, il était un peu perdu. Il a cherché des yeux un bon moment le composteur. Il faisait son pèlerinage. Il avait plusieurs enfants. La plus âgée avait 31 ans et le petit 18 mois. « J'ai une vie bien remplie », il m'a dit avec son drôle de sourire. Il allait montrer des photos du petit dernier à la plus grande. Elle ne voulait plus lui parler car il avait trop déconné quand elle était petite. Il voulait un peu réparer avant de repartir chez lui, en Sicile. « Bonne chance. Oui, salut toi aussi. » Quand je suis sorti, il regardait les gens autour de lui, franchement, mais sans les gêner, en leur souriant comme un très gentil martien. Des nuages et des tours, Dominique Fabre est publié aux éditions de l'Olivier.
Alors Philippe, Dominique Fabre a déjà été invité à Place aux Nouvelles. Il est vraisemblable qu'il sera encore des nôtres cette année. Donc là encore, vous pouvez venir le rencontrer le dimanche 8 septembre 2013 à Lauzerte. Bien, l'agenda maintenant. Alors, qu'est-ce que nous avons sur l'agenda du mois de mai ? D'abord, je rappelle que jusqu'au 11 mai, à la librairie La Femme Renard, il y a une exposition qui est proposée par Blandine Rock, exponomade, Népal, chemin croisé. À partir du 13 mai, toujours à La Femme Renard, l'exposition donc de Népal sera terminée et elle laissera place au vernissage de l'exposition des travaux de l'atelier BD du collège Olympe de Gouges. Ça, c'est le 13 mai à 18h. Cette exposition, si vous ne pouvez pas aller au vernissage, durera jusqu'au 24 mai. Qu'est-ce que j'ai encore ? J'ai le 14 mai à 19h. Alors, Corinne Pourteau va venir présenter un recueil, son recueil de nouvelles qui s'appelle « Pour que demain vienne », qui est publié chez D'un noir si bleu, recueil qui a été sélectionné pour le prix de la nouvelle de La Femme Renard, Lauzerte 2013. Elle sera le lendemain à Lauzerte à 20h30 pour présenter son recueil et elle sera bien sûr des nôtres aussi le 8 septembre, toujours à Lauzerte. Philippe, à vous.
Alors, nous passons au mercredi 15 mai 2013.
C'est
la lecture mensuelle de la Compagnie des écrivains de Tarn-et-Garonne. Alternativement, le troisième mercredi de chaque mois à La Femme Renard et à la librairie de Loche. Donc, le 15 mai, ce sera chez nous. Et Roger Beaumont présentera et lira Georges Courteline, 1850-1929. 1929, c'est aussi la date de naissance de la librairie de Loche.
Ah, deux jours après, le 17 mai à 19h, vous pouvez assister à une rencontre avec deux auteurs jeunesse, Jean Songe et Francesco Pitto. On arrive ensuite...
oui, alors attendez, c'est le week-end avant la Pentecôte, oui, vendredi 17 et samedi 18 mai. Alors il y aura une animation dans toute la ville organisée par l'ODAC, ça s'appellera les Dingodac. Et pour notre part, nous y participerons en organisant des animations surprises, mais culturelles, à l'extérieur et à l'intérieur de la librairie.
Ça va pas être triste, ça j'ai l'impression.
Ça ne devrait pas.
Bon, le mercredi 22 mai à 18h30 à La Femme Renard, rencontre avec Patrick Denis, D-E-N-Y-S, auteur d'Épidore, publié chez Horizon.
Le 25 et le 26 mai, à Eurythmie, à Montauban, c'est le salon du livre jeunesse, qui se tient donc durant tout ce week-end. De nombreux écrivains, des auteurs, des illustrateurs, organisés par l'association Réelle. Donc je rappelle, le 25 et 26 mai, à Eurythmie.
Et pour finir le mois, vous avez jeudi 30 mai à 18h30 à La Femme Renard, Germinal Le Dantec, qui vient lire... et vraisemblablement chanté aussi, des extraits de son livre « Bris de mots » qui est publié chez l'Harmattan. Le 31 mai, le lendemain, vendredi 31 mai à 19h, il y a une rencontre avec Ariane Fasquel, qui est une éditrice, qui a édité entre autres, là je prends mon souffle, « Ce que nous aurions pu être, toi et moi, si nous n'étions pas toi et moi », d'Albert Espinoza, publié chez Grasset, livre qui a obtenu le prix du lycée Michelet 2013. Et Ariane Fasquel aura été auparavant rencontrer les élèves de Michelet dans l'après-midi. Voilà, cette émission est terminée. Je vais demander Philippe de bien vouloir rappeler les livres dont vous nous avez parlé.
Alors, je vous ai parlé en coup de cœur de Bérénice 34-44 de Isabelle Stib aux éditions Serge Safran. Ensuite, d'un policier Besso de la Muerte de Gilles Vincent aux éditions Gigal Polar. Et la lecture était extraite de « Des nuages et des tours » de Dominique Fabre, paru aux éditions de l'Olivier.
Hugues.
Alors, je vous ai parlé d'un roman jeunesse à partir de 16 ans qui s'appelle « Sweet Sixteen » de Anne-Lise Heurtier aux éditions Casterman.
Et moi-même, je vous ai parlé de « D'orgasme à Moscou » d'Edgar Ilsenrath qui est publié chez Attila et de « Sept femmes », livre de Lydie Salvert qui est publié aux éditions Perrin. Au revoir, merci à tous et au mois prochain.
Au mois prochain, merci.